Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse des divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons à la fin de ce grand traité, la tertia pars sur la Sainte Eucharistie. Et nous en sommes à la question 80. De l'usage de l'Eucharistie et de la communion, l'article 9. Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison doivent-ils recevoir la Sainte Eucharistie? Ce n'est pas du tout la coutume en France. Et dans certains pays, notamment en Amérique latine, il y a parfois des endroits où certains fidèles voudraient donner la Sainte Communion déjà aux enfants le jour de leur baptême, c'est une coutume dans certains endroits, ce n'est pas du tout l'esprit de l'Église, donc c'est ce que va répondre saint Thomas d'Aquin. Voyons un petit peu son texte. Voilà ce que dit saint Thomas. On attribue le manque de raison à deux catégories d'hommes. D'abord à ceux qui n'en ont qu'un faible usage, ainsi de quelqu'un qui voit mal, dit-on qu'il ne voit pas, et puisque ces gens-là peuvent concevoir quelque dévotion à l'égard de ce sacrement, il ne faut pas le leur refuser. Il y en a d'autres qui n'ont aucunement l'usage de la raison, ou bien ne l'ont jamais eu, et ils sont restés dans cet état depuis leur naissance, et il ne faut donc pas leur donner ce sacrement, parce qu'auparavant, ils n'ont jamais eu aucune dévotion pour ce sacrement. Donc il fait une distinction. Saint Thomas a fait une distinction entre les gens qui ont une raison faible. Par exemple, on peut donner la communion à un enfant qui a un usage limité de son intelligence. Par exemple, il m'est arrivé en tant que prêtre, de donner la première communion, par exemple, à des enfants mongoliens, mais qui savaient quand même ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas une connaissance totale, mais suffisante pour pouvoir communier. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de refuser l'absolution. Surtout s'il n'y a, on n'a pas le droit de refuser la communion, surtout s'il n'y a aucun risque de profanation du Saint-Sacrement. Mais pour des enfants, des bébés qui n'ont pas encore l'usage de la raison, on ne peut pas leur donner la communion, c'est impossible. Donc saint Thomas cite un décret du concile de Carthage. Si quelqu'un étant malade demande la pénitence, mais s'il arrive que le prêtre appelé après de lui le trouve muet, comme écrasé par la maladie ou tombé dans le délire, que ceux qui l'ont entendu en rendent en témoignage qu'ils reçoivent la pénitence, c'est-à-dire l'absolution, et si l'on croit qu'il doit bientôt mourir, qu'on le réconcilie par l'imposition des mains, c'est-à-dire ça c'est l'extrême-onction, et qu'on dépose l'Eucharistie dans sa bouche, la Sainte Communion donc. Alors, question 80, article 10, est-il permis de recevoir ce sacrement quotidiennement? N'oublions pas que saint Thomas d'Aquin écrivait au XIIIe siècle. Donc il devait écrire ses textes autour des années 1273, même 14. Et malheureusement, c'était déjà répandu à l'époque une coutume mauvaise, qui consistait à faire attendre les enfants très longtemps avant qu'ils puissent communier. Au temps de Saint-Pédis, avant Saint-Pédis, les enfants souvent attendaient 13-14 ans avant de communier pour la première fois. il a fallu toute la force de volonté de Saint Pidis pour ramener les prêtres à plus de d'esprit catholique dans ce domaine et pousser à donner la communion aux enfants dès qu'ils étaient en âge de distinguer le bien et le mal et la différence entre le pain eucharistique et le pain naturel. Donc voyons le texte de saint Thomas d'Aquin sur ce sujet. Il cite saint Augustin, « Ce pain est quotidien, recevez-le quotidiennement pour qu'il vous profite quotidiennement. » Donc saint Thomas était tout à fait pour la communion quotidienne pour tous ceux qui le peuvent. Il est utile de recevoir la sainte communion quotidiennement pour en recevoir quotidiennement le fruit. Si chaque fois que le sang du Christ est répandu, dit saint Ambroise, il est répandu pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir, moi qui pêche toujours, je dois toujours prendre ce remède. Si quelqu'un donc se trouve chaque jour bien préparé, il est louable qu'il le reçoive chaque jour. Vivez, dit saint Augustin, de telle sorte que vous méritiez quotidiennement de le recevoir. Vivons de telle façon que nous puissions communier tous les jours si c'était possible. Mais parce que très souvent, chez la plupart des hommes, surgissent beaucoup d'obstacles à cette dévotion par suite d'une mauvaise disposition du corps et de l'âme, il n'est pas avantageux à tous les hommes d'accéder quotidiennement à ce sacrement, mais aussi souvent qu'on s'y jugera préparé. Donc ça dépend un petit peu des cas. Si les gens sont préparés à recevoir la Sainte Communion, qu'une raison de la refuser tous les jours. Mais si des personnes, au contraire, se préparent pas suffisamment bien, il vaut mieux parfois, dans certains cas, leur demander de ne pas communier trop souvent. Cependant, il est bon, surtout aujourd'hui, de demander aux gens de communier au moins le dimanche. Et même en semaine, quand ils peuvent assister à la Sainte Messe en semaine. Alors, il y a une note intéressante dans l'article, dans la réponse à la troisième objection. Voilà ce que dit saint Thomas. Le respect envers ce sacrement comporte de la crainte jointe à l'amour. C'est pourquoi la crainte respectueuse envers Dieu est appelée crainte filiale, comme on l'a vu dans la deuxième partie. C'est l'amour, en effet, qui provoque le désir de prendre le sacrement, tandis que la crainte engendre l'humilité de révérence. C'est ce qui fait dire à saint Augustin. Celui-ci peut dire qu'il ne faut pas recevoir l'Eucharistie quotidiennement, tandis que celui-là affirme le contraire, que chacun fasse ce qu'il juge dans sa bonne foi, devoir faire avec piété. À ce sujet-là, je voudrais vous lire le décret donc de Saint Pidis qui s'appelle Quam Singulari du 8 août 1910. Il n'est pas très long, je pense que c'est important pour les fidèles catholiques de connaître ce décret qui est malheureusement peu connu. Voilà ce que dit Saint Pidis. De quel amour de prédilection Jésus-Christ entourait sur terre les petits enfants? Les pages de l'Évangile l'attestent clairement. Ses délices étaient de vivre au milieu d'eux. Il avait l'habitude de leur imposer les mains, de les embrasser, de les bénir. Il s'indigna de les voir repoussés par ses disciples, qui réprimanda par ses paroles sévères. Et c'est donc venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Combien il appréciait leur innocence et leur candeur d'âme. Il l'a suffisamment montré quand, ayant fait approcher un enfant, il dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous ne devenez semblable à ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque se fera humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. » En souvenir de ces faits, l'Église catholique dès ses débuts eut à cœur de rapprocher les enfants de Jésus-Christ par la communion eucharistique qu'elle avait l'habitude de leur administrer dès le premier âge. C'est ce qu'elle faisait dans la cérémonie du baptême, ainsi qu'il est prescrit à peu près dans tous les anciens rituels jusqu'au XIIIe siècle. Et cette coutume s'est maintenue plus tard dans certaines contrées. Les Grecs et les Orientaux la conservent encore. Mais pour écarter tout danger de voir des enfants non encore sevrés rejeter le pain se consacrer, l'usage prévalut dès l'origine de ne leur administrer l'Eucharistie que sous l'espèce du vin. Après le baptême, les enfants s'approchèrent souvent du divin banquet. Dans certaines églises, On avait aussi pour habitude de communier les tout-petits aussitôt après le clergé et ailleurs de les distribuer les fragments après la communion des adultes. Puis, cet usage disparut dans l'Église latine. On ne permit plus aux enfants de s'asseoir à la Sainte Table que lorsque les premières lueurs de la raison leur apportaient quelques connaissances de l'Auguste Sacrement. Cette nouvelle discipline, déjà admise par quelques synodes particuliers, fut solennellement confirmée et sanctionnée au IVe Concile œcuménique du Latran en 1215, par la promulgation du célèbre canon 21 qui prescrit en ces termes la confession et la communion aux fidèles ayant atteint l'âge de raison. Tout fidèle des deux sexes, lorsqu'il est parvenu à l'âge de discrétion, doit fidèlement confesser tous ses péchés, au moins une fois l'an, à son propre prêtre, et accomplir avec tout le soin possible la pénitence qui lui est enjointe. Il recevra avec dévotion, au moins un Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, sur le conseil de son propre prêtre, il ne juge devoir s'en abstenir pour un motif raisonnable. Le Concile de Trente, sans réprouver aucunement l'antique discipline qui était d'administrer l'Eucharistie aux enfants avant l'âge de raison, confirma le décret du Latran et anathémisa les partisans de l'opinion adverse. Si quelqu'un nie que les chrétiens des deux sexes, tous et chacun, parvenus à l'âge de discrétion, soient tenus de communier chaque année, au moins un Pâques, selon les préceptes de notre Sainte Mère l'Église, qu'il soit anathème. Donc, en vertu du décret du Latran, cité plus haut et toujours en vigueur, les chrétiens, dès qu'ils ont atteint l'âge de discrétion, sont astreints à l'obligation de s'approcher au moins une fois l'an des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Mais dans la fixation de cet âge de raison et de discrétion, nombre d'erreurs et d'abus déplorables se sont introduits au cours des siècles. Les uns crurent pouvoir déterminer deux âges de discrétion distincts, l'un pour le sacrement de pénitence, l'autre pour l'Eucharistie. Pour la pénitence, à les entendre, âge de discrétion devait signifier celui où on peut discerner le bien du mal, et donc péché. Mais pour l'Eucharistie, il requérait un âge plus avancé, où l'enfant put apporter une connaissance plus complète de la religion et une plus mûre préparation. Ainsi, suivant la variété des usages locaux ou des opinions, l'âge de la première communion était fixé ici à 10 ou 12 ans, là à 14 ou même davantage, et avant cet âge, la communion a été interdite aux enfants ou adolescents. Cette coutume, qui, sous prétexte de sauvegarder le respect dû à l'Auguste Sacrement, en écarte les fidèles, a été la cause de maux nombreux. Il arrivait en effet que l'innocence de l'enfant, arrachée aux caresses de Jésus-Christ, ne se nourrissait d'aucune sève intérieure, et par suite, la jeunesse dépourvue de secours efficace et entourée de tant de pièges, perdait sa candeur et tombait dans le vice avant d'avoir goûté au saint mystère. Même si l'on préparait la première communion par une formation plus sérieuse, une confession soignée, ce qu'on est loin de faire partout, il n'en faudrait pas moins déplorer toujours la perte de la première innocence qui peut-être eût pu être évitée si l'Eucharistie avait été reçue plus tôt. N'est pas moins digne de blâme la coutume en vigueur sur plusieurs régions de ne pas confesser les enfants avant leur admission à la Sainte Table ou de les priver de l'absolution. Il arrive ainsi qu'ils demeurent longtemps dans les liens du péché, peut-être grave, et c'est un grand péril. Mais ce qui est sûr vraiment grave, c'est qu'en certains pays, les enfants, avant leur première communion, même s'ils se trouvent en danger de mort, ne sont pas admis à communion viatique. Après leur mort, sont ensevelis selon les rites prescrits pour les tout-petits et ainsi privés du secours et des suffrages de l'Église. Tels sont les dommages auxquels on donne lieu quand on s'attache plus que ce droit à faire précéder la première communion de préparations extraordinaires, sans remarquer assez peut-être que ces sortes de précautions scrupuleuses dérivent du jansénisme, qui présente l'Eucharistie comme une récompense et non comme un remède à la fragilité humaine. C'est pourtant la doctrine contraire qu'a enseigné le Concile de Trente, en affirmant que l'Eucharistie est un antidote qui nous délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Doctrine qu'a rappelé récemment avec plus de force la Sainte Congrégation du Concile en permettant par son décret du 26 décembre 1905 la communion quotidienne à tous les fidèles d'âge avancé ou tendre, à deux conditions seulement, l'état de grâce et l'intention droite. Et certes, puisque dans l'Antiquité on distribuait les restes des saintes espèces aux enfants encore à la mamelle, on ne voit aucune raison légitime d'exiger maintenant une préparation extraordinaire des petits-enfants qui vivent dans la si heureuse condition de la première candeur et de l'innocence et qui ont le plus grand besoin de cette nourriture mystique au milieu des multiples embûches et des dangers de ce temps.
À quoi attribuer les abus que nous réprouvons, sinon à ce que, en distinguant deux âges, l'un pour la pénitence, l'autre pour l'Eucharistie, on n'a ni nettement ni exactement défini ce qu'est l'âge de discrétion. Pourtant, le Concile de Latran ne requiert qu'un seul et même âge pour ces deux sacrements, quand il impose simultanément l'obligation de la confession et de la communion. Ainsi donc, de même que pour la confession, on appelle âge de discrétion celui auquel on peut distinguer le bien du mal, c'est-à-dire auquel on est parvenu à un certain usage de la raison, de même, pour la communion, on doit appeler âge de discrétion celui auquel on peut discerner le pain eucharistique du pain ordinaire, et c'est précisément encore l'âge même auquel l'enfant atteint l'âge de la raison. C'est ainsi que l'on comprit les principaux interprètes et contemporains du Concile de Latran. L'histoire de l'Église nous apprend en effet que dès le XIIIe siècle, peu après le Concile de Latran, plusieurs synodes et décrets épiscopaux ont admis les enfants à la première communion à l'âge de 7 ans. Un témoignage hors de pair est celui de saint Thomas d'Aquin qui a écrit « Lorsque les enfants commencent à avoir quelques âges de la raison, de manière à pouvoir concevoir de la dévotion pour ce sacrement, la Sainte Eucharistie, alors on peut le leur administrer. » C'est ce qu'on vient de voir dans le texte que nous avons commenté, tertia pars, question 80, article 9, à la troisième objection. Ce que Ledesma commente en ces termes, je dis, et c'est l'avis universel, que l'Eucharistie doit être donnée à tous ceux qui ont l'usage de la raison, quelle que soit leur précocité, et cela même si l'enfant ne sait encore que confusément ce qu'il fait. Vasquez explique ainsi le même passage. Une fois que l'enfant est parvenu à cet usage de la raison, aussitôt il se trouve à ce point obligé par le droit divin lui-même que l'Église ne peut absolument pas l'en délier. Telle est aussi l'opinion de saint Antonin qui dit « Lorsque l'enfant est capable de malice, c'est-à-dire lorsqu'il est capable de pécher mortellement, alors il est obligé par le précepte de la confession, par conséquent de la communion. » Ces conclusions découlent du Concile de Trente. Quand il rappelle que les petits enfants avant l'âge de raison n'ont aucun besoin, n'ont aucune obligation de communier, il ne fournit de ce fait qu'une raison, à savoir qu'ils ne peuvent pas pécher. En effet, dit-il, à cet âge, ils ne peuvent perdre la grâce de Dieu qu'ils ont reçue, la grâce de fils de Dieu qu'ils ont reçue. D'où il appert que la pensée du Concile est que les enfants ont le besoin, le devoir de communier lorsqu'ils peuvent perdre la grâce par le péché. Même sentiment au Concile romain tenu sous Benoît XIII et qui enseigne que l'obligation de recevoir la Sainte Eucharistie commença lorsque garçons et fillettes sont parvenus à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'âge à laquelle ils sont aptes à discerner cette nourriture sacramentelle qui n'est autre que le vrai corps de Jésus-Christ, du pain ordinaire et profane, et savent en approcher avec la piété et la dévotion requises. Le catéchisme romain s'exprime ainsi. L'âge auquel on doit donner les saints mystères aux enfants, personne n'est plus à même de le fixer que le père et le prêtre à qui ils confessent leurs péchés. C'est à eux qu'il appartient d'examiner en interrogeant les enfants s'ils ont quelque connaissance de cet admirable sacrement et s'ils en ont le désir. Vous pouvez rajouter aujourd'hui, je pense que la mère est certainement celle qui actuellement est la mieux à... capable de discerner si l'enfant est suffisamment mûr pour communier. De tous ces documents, dit saint Pédis, il ressort que l'âge de discrétion pour la communion est celui auquel l'enfant sait distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et corporel et peut ainsi s'approcher avec dévotion de l'autel. Ce n'est donc pas une connaissance parfaite des choses de la foi qui est requise, puisqu'une connaissance élémentaire, c'est-à-dire une certaine connaissance, suffit. Ce n'est pas non plus le plein usage de la raison qui est requis, puisqu'un commencement d'usage de la raison, c'est-à-dire un certain usage de la raison suffit. En conséquence, remettre la communion à plus tard et fixer pour sa réception un âge plus mûr est une coutume tout à fait blâmable et maintes fois condamnée par le Saint-Siège. Ainsi, le pape Pie IX, d'heureuse mémoire, par une lettre du cardinal Antonelli aux évêques de France, le 12 mars 1866, réprouva vivement la coutume qui tendait à s'établir dans certains diocèses de différer la première communion jusqu'à un âge tardif et fixe. De même, la Sainte Congrégation du Concile, le 15 mars 1851, corrigea un chapitre du Concile provincial de Rouen qui défendait d'admettre les enfants à la communion avant l'âge de 12 ans. Pour la même raison, dans le cas de Strasbourg, le 25 mars 1910, la Sainte Congrégation des Sacrements, consultée pour savoir si on pouvait admettre les enfants à la Sainte Communion à 12 ou à 14 ans, répondit « Les garçons et les fillettes doivent être admis à la Sainte Table lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion, c'est-à-dire lorsqu'ils ont atteint l'âge de la raison. Après avoir mûrement pesé toutes ces raisons, la Sainte Congrégation des Sacrements, réunie en Assemblée Générale le 15 juillet 1910, pour supprimer définitivement les abus signalés, afin que les enfants s'approchent de Jésus-Christ dès leur jeune âge, vivent de sa vie et y trouvent protection contre les dangers de corruption, a jugé opportun d'établir, pour être observé partout, la règle suivante et sur la première communion des enfants. Premièrement, l'âge de discrétion, c'est-à-dire l'âge de raison, aussi bien pour la communion que pour la confession, est celui où l'enfant commence à raisonner, dire vers 7 ans, soit au-dessus, soit même au-dessous. Dès ce moment, commence l'obligation de satisfaire au double précepte de la confession et de la communion. Deuxièmement, pour la première confession et la première communion, point n'est nécessaire une pleine et parfaite connaissance de la doctrine chrétienne. L'enfant devra cependant ensuite continuer à apprendre graduellement le catéchisme entier suivant la capacité de son intelligence. Troisièmement, la connaissance de la religion requise dans l'enfant pour qu'il soit convenablement préparé à la première communion et qu'il comprenne, suivant sa capacité, les mystères de la foi nécessaires et de nécessité de moyens. Qu'il sache distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et corporel, afin de s'approcher de la Sainte Table avec la dévotion que comporte son âge. Quatrièmement, l'obligation du précepte de la confession de la communion qui touche l'enfant, autant sur ceux-là, surtout qui sont chargés de lui, c'est-à-dire les parents, le confesseur, les instituteurs et le curé. C'est au père et à ceux ou à ceux qui le remplacent et au confesseur qu'il appartient selon le catéchisme romain d'admettre l'enfant à la première communion. Cinquièmement, qu'une ou plusieurs fois par an, les curés aient soin d'annoncer et d'avoir une communion générale des enfants, d'y admettre non seulement les nouveaux communions, mais les autres qui, du consentement de leurs parents ou de leurs confesseurs, comme on l'a dit plus haut, auraient déjà pris part à la table sainte, qu'il y ait pour tous quelques jours de préparation et d'instruction. Sixièmement, ceux qui ont charge des enfants doivent mettre tous leurs soins et les faire approcher très fréquemment de la Sainte Table après la première communion, et si c'est possible, même tous les jours, comme le désire le Christ Jésus, notre Mère, la Sainte Église. Qu'on veille à ce qu'ils le fassent avec la dévotion que comporte leur âge, que ceux qui ont cette charge se rappellent aussi le très grave devoir qui leur incombe de veiller à ce que ces enfants assistent aux leçons publiques de catéchisme, sinon qu'ils pourvoient autrement à leur instruction religieuse. Septièmement, la coutume de ne pas admettre à la confession, de ne jamais absoudre des enfants qui ont atteint l'âge de raison est tout à fait à réprouver. Les ordinaires auront donc soin de la faire disparaître totalement en employant même les moyens de droit. Huitièmement, c'est un abus tout à fait détestable que de ne pas donner le viatique et l'extrême onction aux enfants parvenus à l'âge de raison et les enterrer sur le rite des tout-petits, que les ordinaires reprennent sévèrement ceux qui n'abandonnaient pas cet usage. Ces décisions des éminentissimes cardinaux de la Sainte Congrégation, notre Saint-Père, le pape Pie X, dans l'audience du 7 août, les a toutes approuvées et ordonné de publier et promulguer le présent décret. Il a prescrit en outre à tous les ordinaires, tous les évêques, de faire connaître ce décret non seulement aux curés et aux clergés, mais encore aux fidèles auxquels on devra le lire en langue vulgaire tous les ans au temps pascal. Quant aux ordinaires, ils devront tous les 5 ans rendre compte au Saint-Siège en même temps que les autres affaires de leur diocèse de l'exécution de ce décret. Voilà, ce texte de Saint-Pédis est magnifique et malheureusement peu connu, c'est bien dommage. Donc Saint-Pédis est clair, il dit bien que pour qu'on puisse recevoir, admettre un enfant à la première communion, il suffit simplement qu'il puisse distinguer le pain eucharistique du pain naturel et le bien du mal. Si l'enfant est suffisamment âgé pour pécher, il est suffisamment âgé pour être confessé et donc communié. Donc l'âge de raison, on ne peut pas donner un âge strict, fixe. Ça dépend beaucoup des gens. J'ai vu des enfants, j'ai connu des enfants de 4 ans et demi, 5 ans qui avaient l'âge de raison, certainement. Mais par contre, j'ai connu des enfants qui avaient 7, 8 ans qui ne l'avaient sans doute pas encore. Donc des parents doivent bien surveiller ces choses-là. Voilà, je termine ce petit excursus qui était, je crois, important. Nous continuons le texte de saint Thomas, troisième partie, question 80, article 11. Est-il permis de s'abstenir totalement de la communion? Voilà ce que dit le saint docteur, ici de saint Jean. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors nous avançons. Article 12, ce sont des articles assez simples, donc je vais directement à l'essence même de l'article. Article 12 de la question 80, est-il permis de recevoir le corps du Christ sans recevoir son sang? Parce que, entre autres, dans le rite latin, il n'est pas habituel pour les fidèles de recevoir la communion sous la forme du précieux sang. Donc voilà ce que dit saint Thomas. L'usage de nombreuses églises est de donner au peuple, qui communie le corps du Christ, mais non le sang. N'oubliez pas que, je l'ai expliqué plusieurs fois, que lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie, quand vous recevez la Sainte Hostie, elle contient non seulement le corps du Christ, mais aussi son sang, son âme et sa divinité. Donc vous recevez tout notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avançons maintenant à la question 81 de la tertiaire pars. Comment le Christ a usé de ce sacrement dans sa première institution? Alors, article 1 de la question 81, le Christ a-t-il consommé son corps et son sang? Ceci, ici, Thomas parle de la première messe de notre Seigneur Jésus-Christ, donc au soir du Jeudi Saint. Et ici, Saint Jérôme, le Seigneur Jésus est lui-même le convive et le banquet, celui qui mange et celui qui est mangé. C'est pourquoi lui aussi, tout d'abord, consomma son corps et son sang, et ensuite les donna à ses disciples qui devaient le consommer. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc communié à sa première messe le Jeudi Saint. Alors, bon, on peut lire le texte ici de saint Thomas. Le Christ mangea et but à la scène, comme il donna à ses disciples le sacrement de son corps et de son sang. Aussi, puisque les serviteurs ont communié à son corps et à son sang, il y a participé lui aussi. Article 2. Le Christ a-t-il donné son corps à Judas? Judas a-t-il communié? Tout en sachant parfaitement qu'évidemment la première communion de Judas était une communion sacrilège. Donc voyons ce que dit saint Thomas sur ce sujet. Il cite saint Jean Chrysostome. Judas a participé au mystère et ne s'est pas converti. C'est ce qui rend son crime doublement horrible. D'abord il a accédé au mystère divin étant occupé d'un pareil dessein, savoir se tuer son maître. Puis en excellent, il n'est pas devenu meilleur, n'ayant été touché ni par la crainte, ni par le bienfait, ni par l'honneur. Alors, saint Thomas fait remarquer que certains docteurs pensent, comme saint Hilaire par exemple, ils ont pensé et affirmé que le Christ n'avait pas donné son corps et son sang à Judas. Et cela aurait été normal si on considère la malice de Judas. Mais, dit saint Thomas, parce que le Christ devait être pour nous un modèle de justice, il ne convenait pas à son magistère de séparer Judas de la communion des autres quand il était un pécheur occulte, sans accusateur ni preuve évidente, afin de ne pas donner au prélat de l'Église un exemple qui les autoriserait à agir ainsi. Et Judas, lui-même, poussé à bout, n'aurait tiré occasion du péché. C'est pourquoi il faut dire que Judas reçut le corps et le sang du Seigneur avec les autres disciples. Notre Seigneur a suivi la règle que nous suivons tous comme prêtres, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le droit de refuser la communion publiquement à un pécheur privé. Il ne faut pas transformer un péché privé en un péché public en refusant publiquement la communion à quelqu'un qui n'est pas en état de le recevoir, mais c'est le fait qu'il ne soit pas en état de recevoir la Sainte Eucharistie n'est connu que du prêtre de façon privée. C'est évident que si l'état de péché de la personne est connu du prêtre que par la courbe, tribunal de la pénitence, donc la confession, encore plus, le prêtre ne peut jamais utiliser ce qui est en confession pour interdire une communion publiquement ou de façon privée. Donc, Judas, selon la tradition, a reçu la première communion, a fait une communion sacrilège, comme il a été ordonné prêtre et même consacré évêque de façon sacrilège également. Alors, là, il y a une note intéressante. Le Christ parle à ses disciples dont Judas a quitté le collège, mais le Christ n'a pas exclu Judas. C'est pourquoi le Christ, autant qu'il dépend de lui, boit le vin dans le royaume de Dieu, même avec Judas, mais c'est Judas lui-même qui a refusé ce festin. Donc, Judas, en toute connaissance de cause, a fait donc une communion sacrilège. Voyons maintenant l'article 3. Le corps que le Christ a consommé, qu'il a donné à ses disciples, était-il un corps impassible? Donc voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. Donc il cite Innocent III. Il donna à ses disciples son corps dans l'état où il le possédait. Or, il possédait alors un corps passible et mortel. C'est donc un corps passible et mortel qu'il donna à ses disciples. Alors, certains pères, comme Hugues de Saint-Victor, prétendaient que le Christ, avant la Passion, avait assumé à des époques diverses les quatre dons d'un corps glorifié. La subtilité, lors de sa naissance, quand il est sorti du sein intact de la Vierge. L'agilité, lorsqu'il marcha à pied sec sur la mer. La clarté, dans la Transfiguration. Et l'impassibilité à la scène, lorsqu'il donna à ses disciples son corps à manger. Et donc, dit Hugues de Saint-Victor, il donna à ses disciples un corps impassible et immortel le soir du Jeudi Saint. Mais cette thèse n'est pas suivie par saint Thomas d'Aquin. Le corps même qui était donné sous l'aspect sacramentel n'était pas impassible. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a le corps que le Christ a consommé, qu'il a donné à ses disciples, était un corps, n'était pas un corps impassible, mais un corps passible et mortel. Notre Seigneur Jésus-Christ était véritablement homme. Alors, saint Thomas explique un peu mieux la chose à la fin du corps de l'article. Il est évident que c'était le même vrai corps du Christ qui était vu alors par les disciples sous son aspect propre et qui était mangé par eux sous son aspect sacramentel. Or, il n'était pas impassible selon qu'il avait sous qu'il était vu sous son aspect propre. Tout au contraire, il était prêt pour la passion, donc passible. Par conséquent, le corps même qui était donné sous l'aspect sacramentel n'était pas impassible. Cependant, ce qui en soi-même était passible existait selon un mode impassible sous l'aspect sacramentel, de même que ce qui en soi-même était visible s'y trouvait de façon invisible. C'est-à-dire que si on fractionne, un prêtre fractionne une hostie consacrée, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas souffrir dans sa nature humaine de cette fracture. C'est pourquoi, c'est la conclusion de saint Thomas, ce sont les espèces qui pâtissent qui sont vues et non le corps même du Christ. Le corps du Christ est caché sous les apparences du pain et du vin. Article 4. En quel état se serait trouvé le Christ dans ce sacrement si celui-ci avait été conservé ou consacré pendant les 3 jours où il était mort? Donc voilà ce que répond saint Thomas. C'est le même Christ qui était sur la croix qui aurait été dans le sacrement. Mais sur la croix, il mourait. Donc il serait mort aussi dans ce sacrement qu'on aurait conservé. Donc il donne une petite note en disant lorsque le Christ est conservé dans le ciboire, les hosties consacrées, vous pouvez lui associer une douleur d'origine intérieure, mais une douleur infligée du dehors ne lui convient pas. Le Christ, donc, selon qu'il est dans le sacrement, ne peut pâtir, il peut souffrir, cependant, il peut mourir. Donc, si on avait, dit saint Thomas, consacré ce sacrement au moment de la passion du Christ, quand le sang fut réellement séparé du corps, il n'y aurait eu que le corps sous l'aspect du pain, et sous l'aspect du vin, il n'y aurait eu que le sang. justement parce que c'était la passion, le temps même de la passion. Alors qu'actuellement, lorsque vous communiez, par la force du sacrement, vous recevez le corps du Christ, mais par concomitance, j'ai déjà expliqué tout ça, par concomitance, vous recevez également avec le corps le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, dans le calice après la consécration, il y a par force du sacrement le sang de notre Seigneur, mais par concomitance, il y a aussi son corps, son âme et sa divinité. C'est pourquoi, si alors on avait consacré ou conservé ce sacrement, quand l'âme était réellement séparée du corps, l'âme du Christ n'aurait pas été présente sous ce sacrement. L'âme du Christ est dans ce sacrement en vertu de la concomitance réelle, parce qu'elle n'existe pas séparée du corps. On a déjà expliqué tout ça. Question 82, le ministre du sacrement de la Sainte Eucharistie. Alors, première question, la consécration de ce sacrement appartient-elle en propre au prêtre ? C'est important de bien comprendre ces traditions d'Église parce qu'aujourd'hui, dans l'Église de Vatican II, ils enseignent de plus en plus que tous les hommes étant prêtres, tout le monde peut célébrer la messe. Il appartient, dit saint Thomas, au prêtre seul de consacrer le sacrement du corps et du sang du Seigneur sur l'autel de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce sacrement est d'une telle dignité qu'il n'est pas consacré, qu'il n'est consacré que par celui qui tient la place du Christ. Or, quiconque agit à la place d'un autre doit le faire en vertu du pouvoir que celui-ci lui a concédé. Or, de même que le baptisé a reçu du Christ le pouvoir de consommer ce sacrement, de même, le prêtre, lorsqu'il est ordonné, reçoit le pouvoir de consacrer ce sacrement en tenant la place du Christ. Donc, il faut dire, dit saint Thomas, que la consécration des sacrements de la Sainte Eucharistie n'appartient en propre qu'au prêtre. Les choses n'ont pas changé et doivent toujours être enseignées de la même façon. Alors, article 2 de la question 82, plusieurs prêtres peuvent-ils consacrer une seule et même hostie ? Alors, c'est une question très actuelle. Est-ce qu'il est possible pour un prêtre de concélébrer ? Bon, vous savez que selon la tradition de l'Église, le prêtre ne concélèbre que le jour de son ordination sacerdotale. Le jour de son ordination sacerdotale, je l'ai fait le jour où j'étais ordonné, il y a 40 ans, le 29 juin 1979, j'ai concélébré ma première messe avec Monseigneur Lefebvre. Et tous les prêtres qui avaient été ordonnés ce jour-là, je crois qu'on était une quarantaine, tous les prêtres qui ont été ordonnés ce jour-là, nous avons tous concélébré notre première messe avec l'évêque, qui nous montre en quelque sorte le chemin. Mais la concélébration est absolument interdite en dehors du cas de l'ordination sacerdotale. Selon la coutume, dit saint Thomas, les prêtres qui sont nouvellement ordonnés concélèbrent avec l'évêque qui fait l'ordination. C'est pourquoi, selon la coutume de certaines églises, dit saint Thomas, de même que les apôtres à la scène ont partagé le repas du Christ, de même les nouveaux ordonnés concélèbrent avec l'évêque qui fait l'ordination. Donc ce jour-là, il y a concélébration, mais c'est le seul cas. Alors, article 3 de la question 82. La dispensation de ce sacrement appartient-elle au seul prêtre ? Alors, saint Thomas va citer les décrets de Gratien. Nous avons appris que certains prêtres confient le corps du Seigneur à un laïc ou à une femme pour le faire porter aux malades. Le synode interdit donc de renouveler cette pratique audacieuse, mais le prêtre doit communier les malades lui-même. Donc en fait, le diacre a également ce pouvoir. Le diacre a le pouvoir de donner la sainte communion, et donc on peut envoyer un diacre pour donner la communion à un malade. Mais évidemment, le diacre ne peut pas confesser le malade. Dans les cas de persécution, il est possible de donner à un laïc, même à une femme, la communion pour un malade. Vous connaissez tous l'histoire du petit Tarcissus qui est fêté au 15 août, donc qui avait été envoyé par le pontife pour donner la communion aux prisonniers qui allaient mourir avant leur martyr. Et l'enfant s'est fait houspillé par d'autres enfants qui n'étaient pas catholiques, qui ont essayé de savoir ce qu'il cachait entre ses mains, et l'ont tué. Il est mort martyr de la Sainte Eucharistie, Saint Tarcissus. Donc en cas d'urgence, oui. Il y a eu un cas il n'y a pas très longtemps, chez des sœurs de la tradition, il y a quelques mois là, les sœurs de Donzy, elles ont malheureusement eu un feu dans leur église, et le prêtre n'était pas là. En pleine nuit, il y a eu un feu, et donc une des sœurs, pour sauver le Saint-Sacrement, a ouvert la porte du tabernacle et a pris le Saint-Sacrement pour le préserver des flammes. Dans un cas comme ça, elle pouvait parfaitement le faire. Mais en cas normal, seul le diacre ou le prêtre peut toucher le Saint-Sacrement. Donc, saint Thomas explique bien pourquoi la dispensation du corps du Christ n'appartient qu'au prêtre, ou de façon exceptionnelle, au diacre. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui consacre en tenant la place du Christ. C'est le Christ lui-même, comme il a consacré son corps à la scène, qu'il a donné aux autres à manger de même, que la consécration du corps du Christ appartient au prêtre, de même, c'est à lui qu'on appartient à la dispensation. Deuxièmement, parce que le prêtre est établi intermédiaire entre Dieu et le peuple. Par conséquent, de même que c'est à lui qu'il appartient d'offrir à Dieu les dons du peuple, de même c'est à lui qu'il appartient de donner au peuple les dons sanctifiés par Dieu. Enfin, troisièmement, parce que par respect pour ce sacrement, il n'est touché par rien qui ne soit consacré. Donc seul le prêtre qui a les doigts consacrés par les saintes huiles, par l'huile des catéchumènes, peut toucher ce sacrement. Donc ça, c'est important, surtout aujourd'hui, de ne pas tomber dans ce laisser-aller liturgique qui consiste à donner la Sainte Communion n'importe comment. Alors, saint Thomas répond à l'objection du diacre. Il voit ce qu'il dit, le diacre. Je dis que le diacre pouvait toucher le Saint-Sacrement et distribuer la Sainte Communion en cas d'urgence. Le diacre, parce qu'il approche de l'ordre sacerdotal, participe quelque peu de sa fonction. C'est pour cela qu'il dispense le sang, mais non le corps, sinon en cas de nécessité sur l'ordre de l'évêque ou du prêtre. Parce que le sang du Christ est contenu dans un vase, si bien qu'il n'est pas nécessaire que celui qui le dispense y touche, comme c'est le cas pour le corps du Christ. Non, ce n'est jamais fait dans le rite romain. Deuxièmement, parce que le sang signifie la rédemption du Christ qui se communique au peuple. C'est pourquoi au sang se mêle de l'eau, laquelle symbolise le peuple. Et parce que les diacres sont entre le peuple et le prêtre, il convient davantage au diacre de dispenser le sang que de dispenser le corps. Dans la pratique, le diacre peut distribuer la Sainte Communion. Moi, je me rappelle, j'ai distribué la communion pour la première fois en tant que diacre. Je n'étais pas encore prêtre. J'avais été envoyé par la Fraternité Saint-Pédis, je me rappelle, à la chapelle de l'abbé Montgomery Wright, un prêtre de la tradition qui est mort maintenant depuis longtemps, un anglais, qui est très gentil, et qui m'avait reçu pour la fête de Noël. Et comme il y avait beaucoup de monde à sa paroisse qui venait pour la communion de Noël, eh bien j'avais aidé l'abbé Montgomery à célébrer, à donner la communion à la fin de la messe. J'étais très ému. C'est la première fois que je touchais la Sainte Eucharistie avec mes doigts, puisque j'avais les doigts non consacrés, mais j'avais déjà la consécration diaconale. Article 4. Le prêtre qui consacre est-il tenu de consommer ce sacrement ? Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Il faut tenir, il cite le concile de Tolède, il faut tenir de toute façon que chaque fois qu'un prêtre immole sur l'autel le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois il doit montrer qu'il participe à la réception du corps et du sang du Christ. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Sainte Eucharistie est un sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, c'est ce qu'il faut. Il faut un sacrificateur, il faut une victime, il faut que la victime soit parfaitement consommée par le sacrificateur. Et donc il faut la matière, la forme, l'intention, et il faut que le ministre, à savoir le prêtre, consomme le Saint-Sacrement, pour qu'il y ait sacrifice complet. C'est ce que dit saint Thomas, l'Eucharistie n'est pas seulement sacrement, mais aussi sacrifice. Quiconque offre le sacrifice doit en devenir participant. Parce que le sacrifice qu'on offre extérieurement est signe du sacrifice intérieur, par lequel on s'offre soi-même à Dieu. Et ça, c'est une citation de saint Augustin. Donc, par le fait qu'on participe au sacrifice, on montre qu'on sacrifie, qu'on s'associe au sacrifice intérieur. Donc, le prêtre doit consommer la Sainte Eucharistie.
il n'est pas indispensable que les fidèles communient. Donc si un prêtre n'avait pas de fidèles à sa messe, ou un prêtre n'avait que des fidèles qui ne communient pas, la messe est parfaitement valide du moment qu'il y a la communion du prêtre pour qu'il y ait sacrifice complet.
Il est nécessaire donc que le prêtre, dit saintement en conclusion, chaque fois qu'il consacre, qu'il consomme ce sacrement dans son intégralité. Si miraculeusement le corps du Christ apparent sur l'autel sous l'aspect de chair ou de sang, ou le sang sous l'aspect du sang, il ne faut pas le consommer. Donc saint Thomas fait une remarque ici concernant les miracles eucharistiques. Ils sont très rares, mais dans un cas de miracle eucharistique, le prêtre, c'est-à-dire au moment où l'hostie consacrée se transforme non seulement avec la substance, mais aussi avec les accidents, prenant l'aspect de chair physique, ou le sang prenant l'aspect extérieur du sang, dans ce cas-là, on ne fait pas la consommation, on arrête la messe. Dans ce cas-là, il faut conseiller, dit saint Thomas, au prêtre de consacrer de nouveau le corps et le sang du Seigneur et de les consommer. Article 5 de la question 82, donc nous arrivons à la fin de ce traité. Un prêtre pécheur peut-il consacrer la Sainte Eucharistie? Alors ça, c'est une question importante.
Donc est-ce qu'un prêtre en état de péché mortel peut consacrer la Sainte Eucharistie? On peut poser la question d'une autre façon. Est-ce que si un prêtre est en état de péché mortel et qu'il consacre la Sainte Eucharistie, est-ce que la messe serait valide? La réponse est évidemment oui. Un prêtre ne peut jamais consacrer en état de péché mortel. Il doit se confesser avant, mais dans un cas où il ne pourrait pas se confesser avant la célébration de la Sainte Eucharistie de façon publique, les fidèles attendent tous à la chapelle l'arrivée du prêtre, par exemple pour une messe du dimanche, le prêtre est en état de péché mortel, mais n'a pas la possibilité de se consacrer parce qu'il ne peut pas trouver un autre prêtre qui puisse se confesser avant qu'il ne consacre la Sainte Eucharistie, et bien dans ce cas-là, il peut quand même, il doit même, célébrer même en état de péché mortel, parce qu'il n'est pas tenu évidemment de manifester à ses fidèles les raisons pour lesquelles il ne peut pas célébrer. Saint Thomas donc cite saint Augustin dans l'Église catholique, dit-il, le bon prêtre n'accomplit rien de plus, le mauvais prêtre n'accomplit rien de moins en ce qui concerne le mystère du corps et du sang du Seigneur, car il ne s'accomplit pas par le mérite de celui qui consacre, mais par la parole du Créateur et la vertu du Saint-Esprit. Donc même si le prêtre est malheureusement en état de péché mortel, la consécration est réelle. Le prêtre ne consacre pas ce sacrement par sa vertu propre, mais comme étant le ministre du Christ dont il tient la place quand il consacre ce sacrement. Or, on ne cesse pas d'être ministre du Christ du fait qu'on est mauvais. Donc même un mauvais prêtre, un prêtre en état de péché mortel, est toujours ministre du Christ et donc toujours consacre validement. Cependant, si un prêtre consacre validement, un mauvais prêtre en état de péché mortel consacre validement, il est quand même coupable d'un péché de sacrilège, surtout s'il avait eu la possibilité de se confesser avant la messe. Donc il est évident, conclut saint Thomas, que les prêtres, même s'ils ne sont pas justes, mais pécheurs, peuvent consacrer la Sainte Eucharistie. Alors, nous avançons dans ces explications. Article 6 de la question 82. La messe, c'est une question qu'on nous pose souvent. La messe d'un mauvais prêtre a-t-elle moins de valeur que la messe d'un bon prêtre? Alors, il est évident que c'est le caractère sacerdotal qui rend la consécration possible. Bon, le caractère sacerdotal, c'est-à-dire le caractère qui fait le prêtre, qui fait du prêtre le ministre de Dieu, ne peut pas être enlevé. Il y a trois caractères, vous savez, pour trois sacrements. Le caractère du baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, le caractère de la confirmation qui fait de nous des soldats de Dieu, le caractère de ministre du Christ qui fait de nous des ministres du Christ. Ces caractères sont inamovibles, ne peuvent pas être ôtés d'une âme. Donc l'âme qui a le caractère sacerdotal la garde pour toute éternité. Cependant, donc tous les prêtres, même un mauvais prêtre, disent la messe qui a une chorale, une même valeur intrinsèque. Cependant, dit saint Thomas, plus les prêtres sont dignes, plus facilement ils sont exaucés dans les besoins pour lesquels ils implorent. Il est évident que si le saint curé d'Ars célèbre la sainte messe, il obtiendra certainement pour les fidèles plus facilement des grâces spéciales pour lesquelles il implore notre Seigneur Jésus-Christ que si c'était l'abbé Lafitte qui célébrait la messe. En ce qui concerne le sacrement, la messe d'un mauvais prêtre ne vaut pas moins que celle d'un bon, car de part et d'autre, c'est le même sacrement qui est consacré. De plus, la prière qui se fait à la messe peut encore être considérée à deux points de vue. D'une part, en tant qu'elle tire son efficacité de la dévotion du prêtre qui prie. À ce point de vue, il est hors de doute que la messe d'un meilleur prêtre est plus fructueuse, mais non pas directement, mais indirectement. D'autre part, en tant que la prière est prononcée à la messe par le prêtre qui tient la place de toute l'Église, dont il est le ministre. Or, ce ministère subsiste même chez les pécheurs, comme on l'a dit à l'article précédent à propos du service du Christ. Donc, à cet égard, non seulement la prière que le prêtre pécheur fait à la messe est fructueuse, mais encore toutes les autres prières qu'il fait dans les offices ecclésiastiques où il tient la place de l'Église. Mais ces prières privées ne sont pas fructueuses. Pourquoi un prêtre en état de péché mortel, si vous voulez, ne sera pas écouté par Dieu de la même façon qu'un prêtre qui vit dans l'état de grâce? Mais en tant que tel, la messe d'un prêtre pécheur a la même valeur devant Dieu qu'un prêtre, qu'à la messe célébrée par un prêtre qui est un saint prêtre. Article 7 de la question 82. Les hérétiques et les schismatiques et les excommuniés peuvent-ils consacrer? Donc voici la réponse de saint Thomas. Alors c'est une réponse de saint Augustin en fait. De même que le baptême, ainsi l'ordination demeurait intacte en eux. C'est-à-dire les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés. Mais par la vertu d'ordination, le prêtre peut consacrer l'Eucharistie. Donc, attention à la réponse de saint Thomas là. Les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, puisqu'en eux l'ordination demeure intacte, semblent bien pouvoir consacrer la Sainte Eucharistie. Cependant, ils n'ont pas le droit de le faire. Un hérétique, un prêtre qui a perdu la foi sur certains dogmes, un schismatique, un excommunié, en soi ne peut plus célébrer la Sainte Messe. Cependant, s'il la célèbre, la messe est toujours valide. Alors, saint Thomas explique, certains ont dit que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, parce qu'ils sont en dehors de l'Église, ne peuvent consacrer ce sacrement. Mais ils se trompent en cela. Donc ceux, dit saint Thomas, qui, établis dans l'Église, ont reçu par l'ordination sacerdotale le pouvoir de consacrer, ont bien le pouvoir, mais n'en usent pas régulièrement, si dans la suite, par l'hérésie, le schisme ou l'excommunication, ils sont séparés de l'Église. Donc, quant à ceux qui sont ordonnés dans cet état de séparation, ils ne possèdent pas régulièrement le pouvoir, ils n'en usent pas régulièrement. Ça veut dire que si quelqu'un est schismatique, hérétique ou excommunié, il est coupé de l'Église et donc il ne peut plus célébrer la Sainte Messe. Cependant, s'il le fait, encore une fois, la messe est valide. Pourquoi ? Parce que saint Thomas explique. La consécration de la Sainte Eucharistie est un acte qui découle du pouvoir d'ordre. Ceux qui ont été séparés de l'Église par l'hérésie, le schisme et l'excommunication peuvent bien consacrer l'Eucharistie, et celle-ci consacrée par eux contient vraiment le corps et le sang du Christ parce qu'ils ont le pouvoir d'ordre. Mais ils ne le font pas régulièrement car ils pêchent en le faisant. C'est pourquoi ils ne perçoivent pas le fruit du sacrifice qui est le sacrifice spirituel. Donc de même qu'un pécheur, un état de péché mortel ne peut pas normalement consacrer la Sainte Eucharistie, eh bien, de la même façon, un excommunié, un schismatique ou un hérétique et qui consacre la Sainte Eucharistie, qui utilise la matière, la forme et l'intention traditionnelle de l'Église, la Sainte Messe est valide. Si un prêtre est séparé de l'unité de l'Église, c'est la conclusion de saint Thomas, si un prêtre est séparé de l'unité de l'Église, il célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ parce qu'il n'a pas perdu le pouvoir d'ordre. Mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont pas d'efficacité. N'oubliez pas qu'un prêtre a deux sortes de pouvoirs, un pouvoir d'ordre et un pouvoir de juridiction. Donc le pouvoir d'ordre ne peut pas être détruit. Le pouvoir de juridiction peut être enlevé dans certains cas par les supérieurs ecclésiastiques, les évêques. Et le pape, bien sûr. Article 8 de la question 82. Un prêtre dégradé peut-il consacrer ce sacrement ? Donc saint Thomas d'Aquin répond avec l'affirmative. Le prêtre dégradé peut consacrer ce sacrement pour les mêmes raisons qu'on a déjà données. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de consacrer la Sainte Eucharistie, répète saint Thomas, se rattache au caractère de l'ordre sacerdotal. Or, tout caractère, parce qu'il s'accompagne d'une consécration, est intellibile. Donc le prêtre, même mauvais prêtre, a toujours le pouvoir de consacrer. Article 9. Peut-on licitement recevoir la communion de prêtres excommuniés, hérétiques ou pécheurs et entendre la messe qu'ils célèbrent ? Ça, c'est une question très pratico-pratique qu'on nous pose souvent. C'est l'abbé, est-ce que je peux célébrer la messe d'un prêtre qui dit la messe traditionnelle, mais je sais que ce prêtre vit dans le péché mortel jusqu'au cou. Est-ce que j'ai le droit quand même d'assister à cette sainte messe que je sais par exemple que malheureusement il vit en concubinage ou quelque chose comme ça ? Donc voyons ce que dit saint Thomas d'Aquin. Alors voilà ce que dit, ce que répond saint Thomas. Je reprends donc le. Alors, je reprends le texte de saint Thomas, il cite les décrets ecclésiastiques, que nul n'entende la messe d'un prêtre dont il sait évidemment qu'il vit en concubinage. Le père incroyant, dit saint Grégoire, envoya à son fils un évêque arien pour lui faire recevoir la communion consacrée par une main sacrilège, mais l'homme fidèle à Dieu s'adressa à l'évêque arien lorsqu'il se présenta les reproches qu'il méritait. Et ce fils, qui refusa de recevoir la communion d'une main sacrilège, c'est saint Herménégilde, et qui est martyr de la Sainte Eucharistie. Les prêtres qui sont hérétiques, schismatiques ou excommuniés, ou encore pécheurs, s'ils donnent l'exemple d'un prêtre qui vit en concubinage, bien qu'ils aient le pouvoir de consacrer à l'Eucharistie, n'en usent pas régulièrement. Au contraire, ils pêchent en exerçant ce pouvoir. Quiconque communie avec autrui dans le péché partage à son tour son péché. C'est pourquoi on lit dans la deuxième épître de saint Jean que celui qui aura dit salut à l'hérétique communie à ses œuvres mauvaises. C'est pourquoi il n'est pas permis de recevoir la communion ou d'entendre la messe célébrée par de tels prêtres. Cependant, si vous ignoriez que ce prêtre vivait dans une telle situation, vous ignorez totalement que ce prêtre auquel vous assistez à sa sainte messe, il dit la messe non unacum, il dit la messe traditionnelle, vous ignorez totalement qu'il vit en concubinage. Est-ce que vous péchez ? Non, vous ne faites aucun péché parce que vous ignoriez sa situation morale. Personnel. Jusqu'à ce que l'Église ait prononcé sa sentence, il est cependant permis de recevoir d'eux la communion d'entendre leur messe, surtout s'ils n'avaient rien d'autre. Alors, saint Thomas fait une distinction qui est importante. Il dit qu'il y a une différence entre ces différentes catégories. Les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés sont privés par sentence ecclésiastique d'exercer le pouvoir de consacrer. Aussi pêche-t-on si l'on entend leur messe ou si l'on reçoit d'eux le sacrement. Mais tous les pécheurs ne sont pas privés par sentence de l'Église de l'exercice de ce pouvoir. Ainsi, bien qu'ils soient suspens qu'ils concernent par sentence divine, ils ne sont pas à l'égard des autres par sentence de l'Église. C'est pourquoi, jusqu'à ce que l'Église ait prononcé sa sentence, il est permis de recevoir d'eux la communion et d'entendre leur messe. Article 10 de la question 82, est-il permis à un prêtre de s'abstenir totalement de consacrer la Sainte Eucharistie ? Alors, saint Thomas répond avec une phrase magnifique, il dit « Chacun est tenu d'user de la grâce qui lui a été donnée lorsqu'il en a l'opportunité. Nous vous exhortons de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, dit saint Paul, 2e aux Corinthiens. C'est pourquoi un prêtre, même s'il n'a pas charge d'âme, ne peut pas s'abstenir totalement de célébrer, mais il apparaît qu'il est tenu de célébrer au moins une principale fête, et surtout au jour où les fidèles ont coutume de communier. C'est pour ça que l'Église enseigne qu'un curé, qui a charge d'âme, est tenu, sous peine de péché grave, de célébrer la messe au moins les dimanches et fêtes d'obligation, pour que ses fidèles puissent communier. Il y a eu des grands saints ordonnés prêtres qui ont attendu des mois avant de célébrer la Sainte Messe parce qu'ils ne se jugeaient pas dignes de communier. C'est à admirer, mais peut-être pas à imiter. Alors, nous allons terminer rapidement. Il reste encore une question. Je voudrais terminer aujourd'hui pour avoir terminé le traité sur la Sainte Eucharistie. C'est la question 83 sur le rite de ce sacrement. Il y a six articles que je vais traiter rapidement, parce qu'il n'y a pas de problème particulier avec ces articles. Question 83, article 1. Donc la question 83, c'est sur le rite du sacrement de la Sainte Eucharistie. Article 1, dans la célébration de ce mystère, le Christ est-il immolé? Et saint Augustin répond en disant que le Christ a été immolé une seule fois en lui-même, et cependant, il est immolé chaque jour dans le sacrement. Donc le sacrement de la Sainte Eucharistie renouvelle de manière non sanglante le sacrement, le sacrifice de la croix. Par ce sacrement, nous devenons participants du fruit de la passion du Seigneur. Donc chaque fois qu'on célèbre ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Donc dans ce sacrement, la Sainte Messe, le Christ est immolé de nouveau de façon non sanglante. Alors, article 2, le temps de la célébration est-il déterminé de manière satisfaisante? Alors c'est une question intéressante, un article intéressant, je vais le développer un petit peu quand même. Voilà donc ce que répond saint Thomas à propos du temps de la célébration. Dans la célébration de ce mystère, on vise à la représentation de la passion du Seigneur, dit saint Thomas, et de participation à son fruit. C'est donc selon ces deux points de vue qu'il a fallu déterminer le temps approprié à la célébration de ce sacrement. Parce que nous avons quotidiennement besoin du fruit de la passion du Seigneur à cause de nos défaillances quotidiennes, il est normal que dans l'Église, on offre quotidiennement ce sacrement. Parce que la passion du Seigneur fut célébrée depuis la troisième jusqu'à la neuvième heure, il est normal que ce soit dans cette partie du jour que ce sacrement est solennellement célébré dans l'Église. C'est pourquoi ce qui est simple commémoration ne se fait qu'une fois par an, mais ce sacrement se célèbre chaque jour et pour appliquer le fruit de la passion et pour renouveler sans cesse la mémoire. Alors il y a donc l'obligation, la coutume plutôt. Le prêtre n'est pas obligé de célébrer la messe tous les jours, je vous l'ai déjà dit, sauf le curé, les jours de dimanche et fêtes d'obligation. Cependant, en soi, l'obligation du bréviaire existe tous les jours, sous peine de péché mortel, mais pas l'obligation de la messe. Donc vous ne pouvez pas accuser de péché public un prêtre qui ne célébrerait pas sa messe tous les jours. Cependant, c'est la coutume dans l'Église catholique pour un prêtre de célébrer tous les jours. Avec quelques exceptions, voilà ce que dit saint Thomas, au jour de la Nativité, jour de Noël, on célèbre plusieurs messes à cause de la triple naissance du Christ. Naissance éternelle, qui pour nous est cachée. C'est pourquoi l'on chante une messe de la nuit, où on dit à l'introïte, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Deuxième messe, c'est la naissance temporelle dans les âmes, par laquelle le Christ se lève dans nos cœurs comme l'étoile du matin. C'est pourquoi l'on chante une messe à l'aurore, où l'on dit à l'introïte, la lumière brillera aujourd'hui sur nous. Mais il y a une troisième messe qui représente la naissance éternelle du Christ. Je reprends. Première messe, naissance éternelle. Deuxième messe, naissance temporelle, et troisième messe, naissance spirituelle dans les âmes. Donc, c'est différentes façons de classifier la chose, mais c'est la raison des trois messes. Donc, trois naissances qu'on célèbre, naissance éternelle, naissance temporelle dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, et enfin, naissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes. La troisième est donc la naissance du Christ selon le temps et dans son corps, selon laquelle il s'est produit visiblement hors du sein virginal, revêtu de notre chair, et c'est pourquoi on chante la troisième messe à la pleine lumière, et l'on chante dans son introïte, un enfant nous est né. Donc, selon saint Thomas, première messe, faite la naissance éternelle dans la Sainte Trinité, deuxième messe, la naissance dans les âmes, naissance spirituelle, troisième messe, la messe du jour, la naissance physique de notre Seigneur Jésus-Christ dans son corps. Cependant, on peut dire inversement que la naissance éternelle considérée en elle-même est en pleine lumière. C'est pourquoi dans l'évangile de la troisième messe, on fait mention de la naissance éternelle. Mais selon la naissance corporelle, il est né à la lettre pendant la nuit, pour signifier qu'il venait vers les ténèbres de notre faiblesse. Ainsi, dans la messe nocturne, lit-on l'évangile de la naissance corporelle du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs explications. Les pères d'Église ne sont pas d'accord sur la façon d'interpréter ces trois messes. La façon qu'a expliqué saint Thomas et la façon habituelle d'expliquer les choses. Donc, trois messes, trois naissances. on termine ce traité avec les derniers articles. Faut-il célébrer ce sacrement dans une demeure et avec des vases consacrés? Alors la réponse est évidemment positive, dans toute la mesure du possible, au recours à des consécrations pour les choses qui interviennent dans la pratique de ce sacrement, soit par respect envers le sacrement, soit pour représenter son effet qui découle de la passion du Christ. Donc normalement, on célèbre la messe uniquement sur des autels, avec un autel consacré, avec des vases consacrés. Cependant, à cause des malheurs des temps, dans bien des cas, nous sommes obligés de célébrer la messe dans des situations qui ne sont pas les meilleures. C'est pour ça qu'on a le droit de célébrer la messe en utilisant un autel portatif, en utilisant un corporal grec avec des petites reliques de martyrs qui sont directement cousues dans le corporal qu'on utilise pour la Sainte Messe. Je termine les trois derniers articles. Attendez, je n'oublie rien d'important. Donc, saint Thomas rappelle qu'on utilise en général des étoffes de lin. Les trois nappes de l'autel doivent être faites en lin parce que cela convient à cause de sa propreté pour symboliser la pureté de conscience et à cause de la multiplicité des travaux qui exigent la préparation d'une telle étoffe pour symboliser la passion du Christ. Article 4. Les paroles qui accompagnent ce sacrement sont-elles bien réglées? Donc, c'est la forme du sacrement. Saint Thomas répond évidemment par l'affirmative. L'autorité des décrets prouve la convenance de toutes les paroles qui accompagnent ce sacrement. Alors, il va faire certaines distinctions, je vous fais rapidement, suivant donc le texte de Saint Thomas. Donc, il va résumer, en quelque sorte, expliquer ce qu'est la messe rapidement. La première partie de cette préparation, la louange divine, qui se fait dans l'introïte. Deuxième partie, la préparation comporte le rappel de la misère présente, c'est le Kyrie eleison, qui rappelle la foi à la Sainte Trinité, triple invocation contre la triple misère d'ignorance, de culpe et de peine. Troisième partie, rappel à la gloire céleste, c'est le Gloria in excelsis Deo. Quatrième partie de la préparation comprend la prière que le prêtre fait pour le peuple afin qu'il soit digne d'un si grand mystère. Ensuite, donc, vous avez la célébration par l'instruction du peuple fidèle, c'est le sermon. Une fois que le peuple a été ainsi préparé et instruit, on en vient logiquement à la célébration du mystère, dont celui-ci est offert en tant que sacrifice, consacré et mangé en tant que sacrement. Donc vous avez l'oblation, c'est l'offertoire, puis la consécration, donc qui s'accomplit, dit saint Thomas, par une puissance surnaturelle. C'est pourquoi la préface achevée, le peuple avec dévotion loue la divinité du Christ avec les anges en disant Sanctus, Sanctus, Sanctus. Et la Sainte Messe se terminera par la réception même du sacrement. Le peuple a été préparé à recevoir ce sacrement par la prière commune de tout le peuple et par la paix qu'on donne en disant l'agneau de Dieu. Dans les messes des défunts, cependant, ce sacrifice n'est pas offert pour la paix d'ici-bas, ni pour le repos des morts, mais pour le repos des morts, on nommait donc la paix. On ne demande pas la paix à l'Agnus Dei si la messe est une messe des défunts. Et enfin, la messe se termine par l'action de grâce. C'est évident qu'il est important, je pense, pour les fidèles de travailler un petit peu toutes ces choses-là pour mieux connaître le sacrifice de la messe. Encore une fois, je passe assez rapidement sur ces derniers articles de saint Thomas, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que je suis obligé de faire une sélection un petit peu des textes de saint Thomas. Je ne peux pas tout dire, c'est pas possible, sinon on rentre dans un cours beaucoup plus complet que celui que je fais. Article 5, il y a deux articles dans le traité de la Sainte Eucharistie. Les rites accomplis dans la célébration de ce sacrement sont-ils appropriés? Donc saint Thomas, évidemment, va répondre positivement. Il y a coutume dans l'Église, la coutume de l'Église, laquelle ne peut se tromper, étant instruite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, disent-ils, dans la célébration de ce mystère, Certaines actions ont pour but de représenter la passion du Christ ou encore l'organisation du corps mystique, et d'autres actions relèvent de la dévotion et du respect envers ce sacrement. Donc, par exemple, l'ablution des extrémités des doigts symbolise la purification même des plus petits péchés. L'encensement sert à représenter l'effet de la grâce. L'encens symbolise la prière. Le prêtre, dans la célébration de la messe, pratique des signes de croix, par exemple, pour évoquer la passion de Christ qui l'a conduit à la croix. Donc, la consécration de ce sacrement à l'acceptation des sacrifices et le fruit de celui-ci ont pour origine la vertu de la croix du Christ. Et c'est pourquoi, chaque fois que l'on fait mention d'une de ces choses, le prêtre pratique le signe de la croix. Parfois, dit saint Thomas, dans des exemples qu'il donne, ils joignent les mains, ils s'inclinent, priant avec insistance et humilité. Cela représente l'humilité et l'obéissance du Christ qui ont inspiré sa passion. Le prêtre se tourne 5 fois vers le peuple pour signaler que le Seigneur s'est manifesté 5 fois le jour de sa résurrection. La fraction de l'hostie a une triple signification. D'abord, la division subie par le corps du Christ dans sa passion. Ensuite, la répartition du corps mystique selon divers états. Enfin, la distribution des grâces qui découlent de la passion du Christ. L'hostie est divisée en parties. Celle qui est trempée désigne celle qui est pleinement, ceux qui sont pleinement bienheureux déjà au ciel. Celle qui est sèche, qui n'est pas trempée dans le précieux sang, c'est les vivants. Et celle qui est réservée, le Vendredi Saint par exemple, les ensevelis. Vous voyez, tous ces symboles sont importants. Enfin, dernier article, c'est l'article 6 de la question 83. Peut-on suffisamment obvier aux défauts qui peuvent se rencontrer dans la célébration de ce sacrement en réobservant les lois de l'Église? Alors, saint Thomas, ici, fait allusion à toutes les petites règles que les prêtres doivent bien connaître pour savoir ce qu'il faut faire quand des accidents arrivent. Par exemple, il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai célébré la messe et une mouche est tombée dans le calice après la consécration. Une grosse mouche. Alors, j'ai fait ce que l'Église a prévu dans ces cas-là. Donc, il y a une règle qui dit, dans ce cas-là, le prêtre prend la mouche, l'écrase un petit peu, qu'elle soit vraiment morte, et la place dans le vase des ablutions qui est sur l'autel pour se purifier les doigts, et ensuite il termine la messe de façon normale. C'est ce que j'ai dû faire. Donc l'Église ne prescrit rien d'impossible, dit saint Thomas, donc il faut respecter toutes ces petites règles qui nous sont données par la Sainte Église et qui manifestent justement notre foi en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous avons terminé ici, j'étais un peu plus long que d'habitude aujourd'hui, mais je voulais terminer ce traité. Donc nous avons terminé le grand traité de saint Thomas, question 73 à 83 sur de la Sainte Eucharistie. La prochaine fois, si Dieu veut, donc nous commencerons un autre traité complètement nouveau. Cet autre traité, c'est le traité de la confession. Donc vous savez que saint Thomas d'Aquin, je vous l'ai déjà dit souvent, saint Thomas d'Aquin n'a pas terminé le traité sur la pénitence. Donc il a simplement écrit les questions 84 à 90 et puis il est mort en 1274. Et donc après nous commencerons par la dernière partie de la somme, qui est le complément, le supplément, si vous voulez, qui a été écrit par le secrétaire de saint Thomas d'Aquin, à partir de textes de jeunesse de saint Thomas d'Aquin. Nous verrons ça plus tard. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.